à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. À Helsinki, en Finlande, le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est en cours. Les deux leaders en ce moment même, des consultations face à face avec uniquement des interprètes au palais présidentiel finlandais. Dans une déclaration, avant l'ouverture des discussions, le président Trump a dit que bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose. « Cela me fait très plaisir de vous rencontrer », a déclaré pour sa part Vladimir Poutine, en soulignant que le temps est venu de parler des relations bilatérales sur les questions de fond. Au programme après le face-à-face, un déjeuner de travail des deux présidents avec leur équipe qui sera suivi par une conférence de presse commune. Nous passons maintenant à l'Afrique. Nigeria, les forces armées nigérianes sont à la recherche de 23 soldats portés disparus après une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Un sérieux revers ce week-end où l'armée nationale a perdu le contrôle d'une de ses bases. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Des combattants de Boko Haram ont pris ce week-end une importante base militaire au terme d'affrontements et tendu une embuscade à des soldats dans une autre attaque. Ces deux attaques témoignent de l'emprise des djihadistes dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés ont envahi une base militaire de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe, une région frontalière du Niger, où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées il y a quelques mois. Le commandant de la base et 63 soldats ont pris la fuite pour trouver refuge à Gaïdam, un chef-lieu situé à une soixantaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée. Il s'agit de la deuxième attaque d'envergure en deux jours de Boko Haram contre les forces nigérianes dans le nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari avait pourtant déclaré que la région était entrée dans une phase de stabilisation post-conflit. La recrudescence de la violence a mis la pression sur le président Muhammadu Buhari qui avait promis d'améliorer la sécurité dans le pays.
Cap sur le Tchad voisin, il existe dans le pays un lien étroit entre la crise économique et les mesures d'austérité d'une part et les manifestations et la répression d'autre part. C'est ce qu'a estimé Amnesty International dans un rapport publié ce lundi. Selon l'Organisation de défense des droits humains basée à Londres, le Tchad est depuis 2015 en proie à une grave crise économique, principalement liée à la forte baisse des cours du pétrole brut et exacerbée par le manque de diversification économique. Pour y faire face, N'Djamena a mis en place de sévères mesures d'austérité et a obtenu des aides financières internationales. Et toujours concernant le Tchad, le gouvernement tchadien a entrepris une opération de recensement physique des officiers et gardiens de la paix. Cette initiative, pilotée par l'Inspection générale du contrôle d'État, a pour objectif de repérer les policiers fictifs qui grèvent le budget de l'État. Écoutons le ministre tchadien de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir.
C'est une opération d'assainissement du fichier de la solde. Et le balai d'assainissement doit passer partout. Et on va encore faire l'audit du diplôme. Imaginez-vous, un policier, il est à la fois fonctionnaire quelque part, il est à la fois douanier. Mais voyez-vous ces désordres-là? Et malheureusement, c'est ça la réalité. Vous-même, vous ne serez pas d'accord avec celui qui est là à la maison, qui gagne 2-3 salaires, alors que vous, vous vous arrachez les cheveux pour gagner votre pain. Deux poids, deux mesures. Ça ne peut pas passer dans la 4e République.
Ahmad Mahamat Bachir, ministre tchadien de la Sécurité publique. République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, candidat de son parti, le Mouvement de libération du Congo MLC, à l'élection présidentielle du 23 décembre de cette année. L'opposant congolais en liberté provisoire à Bruxelles en Belgique depuis le mois dernier a promis à ses militants réunis en congrès de vite revenir en RDC pour assumer cette charge. Thierry Kambundi, du Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a suivi le congrès du MLC pour VOA Afrique.
Jean-Pierre Bemba Gombo, récemment acquitté dans la première et la plus grosse affaire pour laquelle il était depuis 10 ans incarcéré à la Cour pénale internationale, a été investi candidat président de la République par son parti. Intervenant au téléphone depuis Bruxelles, le sénateur Bemba a remercié militants et militantes de son parti pour le choix porté sur sa personne et promis de revenir très bientôt à Kinshasa.
Une fois de plus, un grand merci pour la confiance que vous m'avez faite et de faire et témoigner aussi à ma personne. J'espère vous voir prochainement à Kinshasa. Je vous
Délice Sanga, le secrétaire général d'Ensemble pour le changement, plateforme électorale de Moïse Katumbi-Chapwe, évoque pour sa part la nécessité pour l'opposition de se désigner un candidat commun à la prochaine présidentielle à moins de 2 semaines du début du dépôt des candidatures.
Nous avons tous formulé l'appel à l'unité avec Moïse Katumbi et d'autres acteurs politiques. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est venu le temps que tous les acteurs de l'opposition puissent se mettre ensemble pour que nous ayons une solution commune à la crise.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Mali, une dizaine de civils tués par des djihadistes se présumés dimanche dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne, selon les autorités locales et des groupes armés à dominante Touareg. Plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux civils appartenant en particulier aux communautés Peul et Touareg, ont péri ces derniers mois dans cette région, où s'affrontent notamment des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique et deux groupes principalement Touareg soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne, le Gatia et le MSA. On reste au Mali. 80 observateurs électoraux de l'Union européenne sont déjà sur place et le chef de cette délégation a rencontré certains des candidats à la présidentielle du 29 juillet prochain. Le ministère malien de la Sécurité et de la Protection donne une garde rapprochée à tout candidat qui en fait la demande et la campagne électorale continue. Reportage de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est par la capitale de l'Adra des Ifogas que l'unique candidate a débuté la campagne. Dans la ville de Kidal, Kanté Djenabandjaï a passé 48 heures aux côtés des femmes.
La population de Kidal m'a accueillie comme une reine. Là, je suis partie en tant que femme malienne pour montrer aux Maliens que de commencer à Kaï jusqu'à Kidal, nous sommes des Maliennes, nous sommes là pour la paix. On doit dialoguer pour la paix. J'ai balayé la route pour les restes des 23 candidats. Ils peuvent rentrer maintenant parce que c'est une brave dame qui a passé à Kidal, qui a parlé avec la population. Les femmes, les jeunes, ils ont dit qu'ils vont voter massivement. Ils m'ont promis, ils ont mis ma photo partout à Kidal. Ils ont dit qu'ils veulent que la paix.
Présent à toutes les élections présidentielles, excepté celle de 2007, Maître Moutaga Tall mise cette année sur les leaders religieux et les chefs de village.
Ce programme repose essentiellement sur 5 piliers qui sont 1. Les rassemblements, les réconciliations basées sur nos valeurs traditionnelles et religieuses, la sécurité, la production des biens et des richesses, leur juste répartition. Une très grande satisfaction. D'abord, en termes de représentativité de ceux qui sont venus, toutes les grandes branches, toutes les grandes associations, de très nombreux leaders étaient là.
La réforme et la reconstruction d'une vraie armée nationale est le cheval de bataille du candidat du mouvement patriotique pour le renouveau MPR, Dr. Choguel Kokala Maïga.
Je passerai plus de temps à l'intérieur pour réactualiser leurs préoccupations et voir dans quelle mesure je pourrais les prendre en charge pour qu'au bout des 5 ans, on puisse faire le bilan entre ce qui a été pris comme engagement par le si je suis élu président de la République. Les 80 à 90% de mon énergie, de mon temps, de mon savoir-faire vont être consacrés au rétablissement de la sécurité du Mali, la sécurité des Maliens et de leurs biens.
Compte tenu de la situation sécuritaire au Mali, les autorités ont envisagé des dispositions sécuritaires exceptionnelles. Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Que nous avons décidé que tous les candidats officiels pouvaient bénéficier d'une garde rapprochée s'ils en font la demande. Et à ce jour, nous avons moins d'une dizaine de candidats qui ont demandé officiellement et à chaque fois, nous avons attribué immédiatement une garde rapprochée. Et nous avons également offert aux candidats que lors de leur déplacement dans des zones que eux-mêmes pensent sensibles, ils font la demande également, nous leur donnons une escorte. Donc tout cela, ce sont des mesures à même de rassurer les candidats d'abord, la population ensuite.
Après le déploiement de ces premiers observateurs électoraux, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne est déjà à Bamako. Elle a rencontré 17 des 24 candidats, y compris le président de la République, Cécile Kenge.
Sécurité, distribution des cartes, participation aussi. Il faut dire que les efforts sont là. Les autorités sont en train de s'impliquer sérieusement. C'est pas assez. On doit pousser pour qu'on puisse arriver le jour des votes et essayer de dire oui, on a un processus qui est en train d'observer toutes les étapes dans une situation, dans un contexte particulier comme le Mali.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.